Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission hebdomadaire qui nous permet d'entendre chaque semaine donc la parole de l'évêque. On nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je tiens à vous en remercier aujourd'hui. On va parler, Monseigneur, bonjour.
Bonjour Christophe et bonjour Simon.
Nous allons parler évidemment de la Pentecôte, très grande fête chrétienne, fête tellement importante puisque c'est le début finalement d'une certaine manière de l'Église, de la mission des apôtres. Est-ce qu'on peut, avant de parler évidemment du déroulement de la vigile de Pentecôte, de parler peut-être des charismes et de l'effusion de l'Esprit, dire en quelques mots, raconter l'histoire de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour?
La Pentecôte, d'abord une fête agraire juive, donc elle était habituelle à l'époque de Jésus. Il s'avère que Jésus, ressuscité après sa mort, demeure 40 jours avec ses proches, des disciples, des apôtres, et notamment la Vierge Marie, des femmes aussi, et il leur promet un grand don qui sera la venue de l'Esprit Saint, qu'il appelle lui-même le Défenseur, celui qui enseignera toutes choses. Et donc, il leur dit « attendez en prière ». Donc, ils attendent en prière dans un lieu qu'on appelle le Cénacle, un lieu où ils sont un peu entre eux, certes un peu apeurés, parce qu'il y a toujours une crainte énorme de persécution, puisqu'ils sont disciples d'un homme qui a été quand même condamné à mort et crucifié. Et c'est le jour où les Juifs fêtent la Pentecôte, leur fête, que descend, que vient abondamment le don de l'Esprit. Et saint Luc, dans les Actes, raconte effectivement que ils vont recevoir une lumière qui va être comme des flammes de feu qui se déposent sur eux. Il y a un énorme claquement, comme un grand coup de tonnerre, un grand coup de vent. En tout cas, il y a une expérience qui est sensible, visible pour eux, et aussi s'opère en eux une transformation de leur vie qui les rend plein de joie et plein d'audace au point qu'ils vont sortir dehors. Et cette expérience de la Pentecôte des apôtres fonde ce que feront les saints comme expérience plus tard dans l'accueil de l'Esprit, les renouvellements des charismes, et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le baptême dans l'Esprit ou l'effusion de l'Esprit Saint.
Oui. Finalement, l'Esprit Saint fait ce qu'on est incapable de faire. C'est-à-dire que sans l'Esprit Saint, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait en tant que chrétien. On
le L'Esprit Saint, c'est ça. C'est plus que faire, c'est il nous fait exister. C'est-à-dire que nous existons parce que nous sommes soutenus par la vie divine. Sinon, on mourrait tous. On n'est rien dans ce monde incroyable, cet infini univers. Et il nous communique la vie de Dieu.
Ouais. Alors, la vie des premiers disciples juste après la Pentecôte, elle a totalement changé, vous l'avez dit. C'est-à-dire que parmi les fruits de l'Esprit, il y a ce que vous appeliez tout à l'heure l'audace. Un jour, on a peur, puis hop, le lendemain, on n'a plus peur, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et on part en mission. C'est extraordinaire. C'est oui, là le vrai miracle, peut-être.
C'est sûr que ces hommes n'étaient pas préparés à la mission qu'ils allaient recevoir. Comme nous-mêmes, on est des chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, avec des compétences, une formation peut-être universitaire ou scolaire, mais être envoyé en mission loin, ça nous paraîtrait complètement décalé par rapport à ce que nous sommes. C'est le cas des apôtres. Ils étaient en général des gens simples. Plusieurs étaient pêcheurs de poissons dans le lac. Donc, c'est quand même pas des métiers qui les ont ouverts à la prédication, par exemple. Et pourtant, l'Esprit-Saint dit à Saint-Pierre de sortir. Il sort, il se met sur une pierre, sur quelque chose, et il parle à des milliers de gens de ce qui s'est passé pour Jésus. Et il leur annonce qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il faut qu'il se convertisse. Et les gens se convertissent.
Ouais. Alors, ce qui est fascinant, c'est que chacun entend ce qui est dit dans sa langue. Ça, c'est absolument inouï.
Alors, c'est ça. Le texte dit qu'il parlait toutes les langues. En fait, il faut comprendre que Jérusalem est un lieu de pèlerinage habituel des Juifs. Et ces Juifs habitent une diaspora qui s'étend sur tout l'ensemble de l'Empire romain, qui est donc énorme, c'est 8 fois la taille de la France au second siècle, et même au-delà de l'Empire romain, peut-être vers l'Orient. Et donc les gens venaient pour ces grandes fêtes à Jérusalem, et ils parlaient des langues locales. Et donc les apôtres leur parlent dans des langues qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, et les gens en tout cas comprennent dans leur propre idiome, dans leur propre langue, ce que les apôtres disent.
C'est extraordinaire.
Et ils sont absolument surpris, parce qu'ils voient bien que ce sont des gens simples.
Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on appelle la glossolalie?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait, non.
ce qu'on appelle la glossolalie, c'est un don de l'esprit qui est une cantillation, un chant intérieur, mais qu'on peut exprimer par des sons. Quand on veut louer Dieu, au fond, on peut prendre des psaumes, des textes qui ont une signification, ils ont des mots, des phrases, des structures de phrases, et puis arrive un temps où, au fond, on a envie un peu de fredonner, si vous voulez, de chanter, un peu, ce qu'on pourrait comparer ça aussi à un bébé qui gazouille, vous voyez, qui dit sa joie, très simplement, par cette mélopée, par ses chants, etc.
Ouais. Finalement, la glossolalie, c'est encore l'esprit en surabondance.
C'est ça. Et puis, ouais. Alors, c'est un peu surprenant parce que quand on le fait, on se dit qu'est-ce que je fais. Puis, en même temps, ça suscite en nous une forme de joie et une forme de liberté. Hein, souvent, c'est la question. Est-ce que je suis libre d'exprimer ce que je porte en moi comme joie envers Dieu, l'exprimer devant les autres librement? Et parfois, on est un peu contenu. On dit qu'est-ce qu'ils vont penser. Si je mets un petit peu les mains en l'air, on va dire waouh, c'est un peu bizarre. Si on tape dans les mains, on va nous dire ben, ça ne se fait pas. Un peu comme moi, quand j'étais gamin, on me disait on ne chante pas à table, vous voyez. Ben, pourquoi on ne chante pas à table? Après tout, c'est quoi la loi qui est derrière ça? C'est quoi la raison profonde? Et l'Esprit Saint nous apprend un peu à dépasser quand même nos cadres qui ont été parfois un petit peu restreints.
Oui. C'est l'aspect, si j'ose dire, révolutionnaire, finalement, de l'esprit, quoi, finalement.
L'esprit est révolutionnaire. Ouais. Quand on voit ce qu'ont fait les grands saints, un saint François d'Assise profondément charismatique qui va reconstruire l'Église du Seigneur, quand on voit une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ouvre la parole de Dieu, qui lit 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour, et qui dit « Ma vocation, ce sera l'amour dans l'Église ». Moi, j'aurais aimé être, dit-elle, missionnaire, martyr, prêtre, enfin, tout prophète. Et ben, elle dit « Je serai l'amour. » Quelle révolution, quelle audace.
Ouais. Parlons des charismes, c'est évidemment important. Ils sont nombreux, il y a des charismes assez spectaculaires. La prophétie, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des prophètes dans l'Église?
Alors, charisme, c'est un mot qui vient de grâce, hein, la grâce de Dieu, donc l'œuvre de Dieu en soi. C'est vrai que saint Paul en parle très bien dans l'Épître aux Corinthiens, et puis on les verra dans les actes se déployer dans la vie des apôtres eux-mêmes. Les charismes sont des dons qui sont donnés à tous. Chacun a des charismes s'il s'ouvre à la présence de l'Esprit et s'il ne fait pas obstacle non plus à la présence de l'Esprit. Autrement dit, s'il a une vie quand même assez vertueuse, assez évangélique. Et puis, ces charismes vont être donnés à chacun, mais en vue du bien commun. Autrement dit, celui qui a un charisme effectivement de prophétie, alors c'est pas un gourou, c'est pas un astrologue, c'est pas un magicien qui va faire une sorte de prédiction de l'avenir. Le prophète, c'est celui qui dit au nom de Dieu ce que Dieu opère aujourd'hui dans le monde, qui voit en lui, dans son cœur, en priant, il voit comment la parole prend chair, comment la parole est active aujourd'hui. Et il l'annonce, il le dit à l'Assemblée. Et souvent, il s'appuie sur la parole de Dieu elle-même.
C'est intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit, à condition qu'on ne fasse pas obstacle à l'action de l'Esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme ça, au débeauté, je sais que ce n'est pas facile, des conseils, justement, de vie, pour ne pas faire obstacle à l'action de l'Esprit? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Vous savez, c'est un peu comme un tuyau qui est engorgé de saleté et de calcaire. Il coule, plus beaucoup, ou bien une petite rivière qui a plein de broussailles et plein d'arbres morts, l'eau ne coule pas non plus. Donc nos cœurs sont des canaux. Saint Bernard disait de Marie, la Vierge Marie, qu'elle était un aqueduc, voyez, un aqueduc qui laisse passer toute l'eau de la grâce, quoi. Et donc il faut que nos cœurs, nos vies soient quand même allégées du poids du péché. Donc le mal en nous, le péché, c'est la fausse route, c'est l'erreur de direction, quoi. J'ai pris une mauvaise route et je reviens sur la route principale, la bonne qui est celle de l'amour, qui est celle de l'entraide, du don de soi, du service. Donc de fait, quand on a ce cercle vertueux en soi de prendre soin des autres, d'être accueillant de l'amour que je reçois, que je redonne, cela permet d'accueillir aussi la lumière de l'Esprit-Saint dans des conditions parfois un peu surprenantes, comme par exemple je rencontre quelqu'un dans la rue qui me parle d'un souci, eh bien je peux de manière un petit peu audacieuse dire au Seigneur, donne-moi un charisme de parole, de consolation pour vraiment donner ta parole à cette personne qui est là. Et là, il faut avoir l'audace de le faire, pas en rester à un petit conseil humain, gentil, de compassion, mais aller au-delà de ça pour donner la parole de Dieu.
On doit oser faire ça.
Il faut être audacieux et c'est parfois très surprenant.
Oui. Alors, vous allez peut-être nous parler du déroulement de la vigile de Pentecôte, sans doute.
Alors, la vigile de Pentecôte, bien, c'est là, on y est, c'est donc samedi 8 juin. soir à la cathédrale, qui sera le point d'aboutissement de la démarche synodale du diocèse, qui a duré 2 ans avec donc 140 équipes environ de gens qui sont réunis, et puis un élan de chez beaucoup, qui a été l'occasion d'une synthèse aussi. En tout cas, on va prier, il y aura des témoignages, il y aura des surprises, des animations un peu surprises qui vont être faites. On aura des beaux chants de louange, on va monter une équipe un peu large avec différents groupes de gens. Et puis, on va vraiment prier le Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant, fais descendre ton Esprit Saint, donne à notre Église d'Eure-et-Loire une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui se donne abondamment, en fait. Hein. Il ne limite pas son don. Quand on prie ainsi pour avoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, en fait, c'est que nous nous rendons disponibles pour qu'il vienne animer nos vies, qu'il vienne animer nos communautés, qu'il vienne nous conduire à un renouveau, peut-être dans nos animations. Vous savez, parfois, il y a des églises où on est un petit peu figé, quoi. On dit c'est comme ça, ça se fait comme ça depuis 20 ans, on ne va pas changer ou les chants, ou l'animation, ou les équipes. Non, c'est... Et alors, les gens nouveaux qui arrivent, ils disent est-ce que je peux trouver une petite place ou pas pour amener mes dons et mes charismes? Et parfois, ils ne trouvent pas la place. Donc, ouais. Il faut qu'on soit conduit par l'Esprit Saint, pas par une volonté humaine, mais pas par un désir de bâtir humainement quelque chose de fonctionnel. Mais il faut que l'Esprit Saint nous conduise de manière toujours nouvelle et sans arrêt nouvelle pour répondre à la soif, à l'attente de nos contemporains, qu'ils entendent la parole de Dieu, que nous puissions les visiter, que nous puissions dialoguer avec ce monde sans crainte. Le monde vit des choses souvent différentes de celles que nous vivons. Et j'aspire à ce qu'on ait cette liberté-là. Je peux vous dire que j'ai rencontré moi-même un couple récemment de 2 hommes qui comptent se marier donc à la mairie, qui voulaient échanger avec moi. J'ai passé 2 heures avec eux. J'ai trouvé ça profondément intéressant, humainement riche, que d'essayer de comprendre leur vie. Et voilà, ils ont été, je pense, aussi contents et même surpris qu'un évêque vienne chez eux. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'aspire à ce que nous puissions avoir cette ouverture et l'Esprit Saint nous y invite.
Il nous reste une petite minute. Votre coup de cœur de la semaine, si j'ose dire, une émission chez nos amis de Radio Notre-Dame, une émission pleine d'espoir, finalement, je trouve.
Oui, moi, vous savez, je suis ingénieur. Hein. J'ai fait une école d'ingénieur quand j'étais plus jeune et je reste très attaché à la technique, à ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup aller voir les entreprises durant les visites pastorales, comme les fermes et autres. Et j'ai écouté un homme qui s'appelle Gunther Pauli, qui est un Belge, qui a un génie incroyable pour réfléchir à ce qu'il appelle l'économie bleue, donc l'économie de la transformation. Il dit, au fond, la nature elle-même produit ce qu'il lui faut, ne produit aucun déchet, tout est récupéré, et chaque être vivant a sa place. Dans la chaîne de la vie, chaque être vivant a sa place, donc personne n'est mis au rebut. Et il dit, au fond, c'est le modèle magnifique de la nature qui doit nous inspirer pour l'avenir. Et il cherche des chaînes de transformation toujours plus incroyables en disant, quand on me dit c'est impossible, je dis alors c'est passionnant, il faut y aller. Et donc voilà, il, j'encourage vraiment à ce que vous écoutiez Gunther Pauli, parce qu'il a à nous dire des choses, pas seulement pour l'écologie, entre guillemets, mais pour la façon de vivre la vie.
À cette occasion, j'ai appris qu'en Chine, on fabrique du papier avec de la poussière. C'est fabuleux.
Exactement. C'est ce qu'il explique. Faute d'avoir de l'eau, ils n'ont pas pu prendre du bois et ils récupèrent la poussière des mines de cailloux, etc. Et ils en font un papier.
Ouais. Merci, Monseigneur. Merci aux auditeurs de leur fidélité. On vous souhaite à tous et à toutes l'effusion de l'esprit lors de cette vigile de Pentecôte. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.
Avec joie.
Merci à Simon en régie technique. Mmh.